Bon, et la pote dit ça, Jésus, ben attends, on n'arrive pas à chasser celui-là. Comment est-ce qu'il faut faire? On est venu à bout.
Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, Jésus. Ce moment-là, il soupire, puis il dit, jusque là, quand je serai avec vous, ce démon-là ne s'en va que par la prière, et par la pénitence, et par le jeûne. Et alors, il s'est occupé de ce garçon. Alors, vous l'avez, hein, on peut le lire, parce que c'est pas dans les... C'est pas dans les... J'aurais pu prendre l'évangile, mais j'aime bien la manière dont elle l'a senti. C'était un jeune homme dont les parents coururent devant, au devant du Seigneur, au moment où il entrait dans leur village. Il est suivi dans la cour de leur maison, où se trouvait leur fils, qui à son approche devint furieux. Ça c'est extraordinaire, hein? La fureur du démon se déclenche seulement à l'approche du Dieu, du Christ. Sinon, le garçon il est calme,
à peu près.
Bondit de rage, escalada les murs. Les gens qui étaient là voulaient se saisir de lui, mais ils ne purent y parvenir parce que sa fureur allait toujours croissant et qu'il déchirait à belles dents ceux qui l'approchaient. Alors le Seigneur ordonna à tous les assistants de sortir et de le laisser seul avec le possédé. Dès qu'ils se furent tous éloignés, Jésus commanda au jeune homme de venir à lui. Alors, vous voyez, première chose,
éloigner le monde,
éloigner les gens. La victoire sur le mal, sur le péché, sur le démon.
Premièrement,
il faut revenir au calme et une certaine solitude. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. Tant qu'il n'y a pas cette solitude silencieuse et vivante, on ne peut pas avoir accès à cette communication qu'il y a entre le Seigneur, entre la grâce de Dieu et nous. C'est cette communication entre la grâce de Dieu et nous qui peut faire sortir, au fond, un démon ou un mal qui a pénétré en nous, à notre dépens et contre notre volonté. Alors le Seigneur, dès qu'ils se furent tous éloignés, commanda au jeune homme de venir à lui. Mais celui-ci ne vint pas. Il tira la langue au Seigneur. Il faisait d'affreuses contorsions. Jésus l'appela une deuxième fois. Mais il refusa toujours de venir. Il se contentait de le regarder en lui tournant le dos. Et il lui tourne le dos. Il ne voulait pas le voir, quoi. À ce moment, Jésus leva les yeux au ciel et pria. Cette fois, le possédé vint à son commandement et se jeta à ses pieds tout son long. Alors, c'est le démon qui c'est pas l'homme, c'est le démon qui s'est prosterné comme ça, face contre terre. Le Seigneur, à ce moment-là, a marché sur lui. Et Jésus a marché sur lui. Il a posé le pied sur lui, un pied, puis l'autre. Il fit cela deux fois, comme s'il marchait sur le corps. Je vis alors sortir de la bouche du possédé comme un tourbillon de vapeur noire qui se dissipa dans l'air. Et dans cette vapeur, je distinguais trois nœuds qui étaient joints ensemble par un gros fil et par plusieurs autres plus déliés. Et il y a des liens et des nœuds. Il y a un nuage, une gloire sombre, des nœuds, des liens qui sortent de sa bouche. Je ne puis comparer le tout qu'à trois encensoirs superposés, laissant échapper par des ouvertures des nuages de fumée qui se réunissent les uns aux autres. C'est marrant ce que je voyais, hein, de Catherine Emmerich. J'eus ensuite une grande et merveilleuse vision touchant ce démon que le Seigneur chassa ce jour-là près de Béthanie. Je ne saurais la reproduire de manière suivie. C'était une succession de tableaux qui se perdaient les uns à l'intérieur des autres. En considérant les trois nœuds noirs enlacés, je pénétrais de plus en plus dans les détails de la vision, qui me fut rentrée dans tout un monde, le monde du mal. Il me semblait voir d'abord une ombre en mouvement. Ensuite, je reconnus l'ombre d'un homme. Puis, une ombre, une forme humaine dont on pouvait distinguer les membres, et même tout à l'intérieur. On voyait le cœur, le cerveau, tous les autres organes avec leurs fonctions. On pénétrait toutes les pensées, les sentiments et les actes. On visitait le corps et l'âme de cet homme, qui d'abord n'avait paru qu'une ombre, et dont on voyait enfin les rapports qu'il avait avec ses semblables. Je vis dans l'enceinte de cette église infernale, ça représentait au fond... Il manque une ligne ou deux, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur de lui, il y avait ses nœuds. Donc, je vis comme une église. Cet homme était comme une église, comme un corps mystique. Il y a au fond deux corps mystiques. Le corps mystique du Christ et le corps mystique de l'homme, de l'ombre. Donc, qui à lui-même est une église infernale, comme l'église, c'est le corps mystique du Christ. Donc, dans l'enceinte de cette église infernale, je vis se produire la fornication, le meurtre, toutes sortes d'abominations. C'étaient là les bonnes œuvres des adorateurs du démon. Et je reconnus que tous ceux qui s'adonnaient à ce tel forfait appartiennent sans le savoir à cette église diabolique. Je distinguais en nous dans cette sphère certains états, certaines relations qui, dans la vie ordinaire, ne sont pas considérées comme illicites. Il y avait tout auprès de ces extatiques des personnes magnétisées qui se frontaient d'onguents pour voir au loin la voyance, voyez, et ensuite commettaient avec d'autres les péchés les plus abominables. Il y avait quelque chose d'affreux entre les magnétisés et les magnétiseurs. C'était des nuages noirs qui allaient des uns aux autres. Je n'ai jamais vu de personne sous l'influence du magnétisme qui ne puisse être affecté au moins faiblement de quelque impureté charnelle. Je vois aussi toujours leur clairvoyance ayant pour agent de mauvais esprits. Beaucoup de personnes me paraissaient tomber du royaume de lumière dans celui des ténèbres situé au-dessous, parce que, soit pour guérir des malades, soit dans l'intérêt de la science, ils prenaient part à ces opérations magiques. Ils magnétisaient. Et s'efforçait, égaré par des succès trompeurs, de séduire beaucoup de personnes appartenant au royaume de la lumière. Je vis qu'il voulait confondre ces guérisons opérées dans les ténèbres et cette clairvoyance infernale avec les guérisons surnaturelles et les visites des saints. Ces hommes d'une haute distinction travaillaient ainsi, sans savoir, au royaume de Satan. Voilà pour le premier nœud. Le deuxième nœud, le deuxième encensoir, dans l'enceinte de l'autre sphère, il y avait aussi une église avec des mystères. C'était comme des associations secrètes. Je n'y vis pas le démon en personne et on n'y pratiquait pas son culte proprement dit. Je n'y vis pas non plus de si abominables choses pratiquées volontairement ou par malice. On s'y occupait de sciences occultes et on cherchait à pénétrer les secrets de la nature. On faisait de l'or, on frappait la terre avec une baguette dont le bout était dentelé, on portait des amulettes et des anneaux sur lesquels étaient gravées des lettres, on célébrait certaines fêtes, on tirait les cartes, on conjurait la fièvre, on guérissait par des moyens bizarres. J'ai vu là mille choses extraordinaires, destinées en apparence à contribuer au bien-être extérieur des hommes. Mais il y avait au fond le culte secret du démon. Le désir de guérir sans renoncer au péché, comme source de la mort et des maladies. Le secours demandé non à Jésus et à son Église, mais à la nature déchue. Ces guérisons étaient d'ailleurs apparentes et pleines de dangers, ce qui me fut montré par des symboles comme celui d'un trou couvert de papier pour qu'on ne le voie pas. Dans ces trois nœuds, dont les teintes noires différaient entre elles, je vis diverses subdivisions qui prirent sous mes yeux la forme de jardins, dans lesquels j'aperçus toutes sortes d'affreuses choses. Ensuite, je distinguai de petites figures, puis des hommes, et tout cela m'apparut comme la succession des différents règnes de la nature dans sa formation et son activité. Les jardins formaient maintenant diverses sphères d'action et d'opération. Quand la vision fut arrivée à ce degré de développement, je ne vis plus les nœuds circulaires suspendus en l'air, mais tout était devenu comme un monde. J'aperçus aussi des cercles lumineux opposés à ces sphères ténébreuses et qui les séparaient. Il en sortit des hommes qui passaient dans les cercles ténébreux. Quand ces sphères se présentèrent à mes yeux sous la forme de monde plein d'hommes et de vie, je distinguais des églises de ténèbres. Dans la sphère ténébreuse la plus basse, je vis un culte abominable rendu aux démons, et en guise d'autel un monticule derrière lequel était un trou où d'énormes bûches entretenaient un brasier ardent. La flamme était d'un rouge sombre, et la fumée se dirigeait en bas, vers la terre. Toutes les cérémonies, toutes les prières semblaient se diriger en bas. J'aperçus là une espèce de sanctuaire et comme un sacrifice, mais ce n'était qu'outrage, profanation, abomination et infamie. Il y avait tout un cérémonial en l'honneur du démon. Je ne puis expliquer autant d'horreur autour de ce genre infernal, de ce centre infernal. On voyait des personnes qui faisaient bouillir dans de grandes chaudières avec d'autres choses hideuses, des plantes dont je savais les noms et dont la vue toutes les fois que je les rencontrais dans mon enfance me faisait frissonner. Je vis qu'elles en noignaient leur corps. Ensuite, elles furent transportées en différents lieux où elles se réunissaient à des hommes qui leur étaient semblables et avec qui elles se livraient au péché. Je vis aussi les fils des fils réunir toutes ces âmes, de sorte que l'un savait et voyait ce qui concernait l'autre. Et il y avait dans ces relations ces fils ou canaux spirituels comme des oiseaux noirs qui allaient et venaient pour établir les communications. Je vis des personnages communiquer des maladies aux hommes et leur faire toute espèce de mal. Ils appartiennent à toutes les contrées. Il y en avait malheureusement de notre temps et de notre pays. Surtout, on rencontrait parmi eux beaucoup de juifs des pays étrangers. Tout compris, ils ne formaient pas un groupe bien nombreux. Ils agissaient mystérieusement dans les ténèbres. Toutes leurs œuvres n'étaient que folie, abomination et méchanceté, sans aucun profit pour eux-mêmes. Cette fausseté d'église était plus encore que la première, entourée de personnes qui s'occupaient de magnétisme, mais celle-ci n'était pas aussi corrompue que les autres. Toutefois, il y avait là comme une école qui préparait au plus grand crime. Vous voyez, je voyais qu'il y a une erreur dans la photocopie. Cette page, en fait, précède celle que je viens de lire. Toutefois, il y avait là comme une école qui préparait au plus grand crime. Je vis cette sphère inférieure peuplée d'une multitude de gens qui étaient, par rapport à ceux du cercle inférieur, ce que sont les laïcs relativement aux prêtres. Au lieu de l'horrible culte diabolique, des impudicités, du meurtre, de l'abomination, de la préparation de breuvages, empoisonnés, de la propagation d'images et des cris obscènes, je voyais ici de folles amours, l'idolâtrie de la nature et de la créature, l'affection aveugle des parents pour leurs enfants, des billets doux, de la musique mondaine, des danses, des boucles de cheveux, des anneaux, des portraits d'amants. Dans le cercle précédent, j'avais vu préparer des breuvages afin de procurer des avortements. Ici, on usait de charme pour inspirer l'amour. La troisième sphère présentait un autre aspect, et c'était pour la même chose. C'était pourtant la même chose, mais à un degré inférieur, à un degré différent. Ici encore, il y avait une église au centre. C'était simplement la franc-maçonnerie et des choses de ce genre. Il n'était question ici que de bienfaisance sans Jésus-Christ, de lumière en dehors de la vraie lumière, de science sans Dieu, de bonne chair, de vie commode, etc. Les gens de ce cercle se croyaient bien au-dessus de ceux des deux autres, et ils s'imaginaient travailler contre eux, tandis qu'ils ne luttaient que contre la religion. Et ils laissaient grandir les deux autres dans le sol desquels ils avaient leurs racines. Les trois royaumes étaient liés ensemble par de triples canaux et par une foule de lignes et de rayons qui les mettaient en rapport Tous les gens qui composaient se donnaient beaucoup de peine. Mais ce qu'ils produisaient n'était qu'erreur, aveuglement, misère et désespoir. Leur guérison n'était que des palliatifs qui souvent augmentaient le mal en le déplaçant. Je vis dans les deux derniers cercles un grand nombre de savants, surtout des médecins et des pharmaciens. Je ne me rappelle pas la suite de cette vision. Je ne vis plus de séparation entre la région de la lumière et des sphères ténébreuses. Tout était confondu, c'était le monde avec tous ses bruits. Je me trouvais moi-même au milieu de tout cela et je vis des amis et des gens de ma connaissance qu'une espèce de vertige poussait vers les cercles ténébreux et j'essayais de les ramener en arrière. Ma sœur aperçut dans ces cercles un règne végétal et un règne animal qui avaient avec chacun de ces cercles un triple rapport physique, moral et mystique. Et dans tous les trois, l'abus différent qu'on en faisait. Elle vit la signification des animaux, leur rapport réel et symbolique avec les péchés et avec les vertus opposées à ces péchés. Elle put aussi considérer les œuvres du monde déchu en dehors de l'Église de Jésus-Christ et voir comment, par ses abominations, le monde adore le démon, soit directement et personnellement, soit indirectement dans la nature, et comme il s'adore lui-même dans sa raison, il veut par lui-même opérer son propre salut. Quand Jésus marche sur le possédé, à chaque fois, elle voit donc une nuée spirituelle sombre sortir. Et comme vous pouvez le constater, elle voit, et c'est ça qui est intéressant dans cette petite explication, elle voit en fait tout le monde du mal qui parcourt tous les temps et toutes les sphères avec leurs liens, le monde de la nature, le monde du végétal, le monde animal, le monde humain. Et ces espèces de trois églises qui sont censées lutter les unes contre les autres, parce qu'il y en a une qui est remplie, soi-disant, d'amour et de lumière, l'autre carrément luciférienne, et la troisième, et c'est la pieuvre noire, vous l'avez reconnu. Et alors, et Jésus marche comme ça. Et quand il exorcise cet homme, en fait, il fait l'exorcisme sur le mal du monde entier jusqu'à la fin du monde. À chaque fois qu'on est pris par le monde du mal, on ouvre la porte au corps spirituel des ténèbres.
Il y a deux corps spirituels. D'accord. Le corps mystique de Christ, et nous sommes les membres vivants, le corps mystique vivant de Jésus vivant. Dès lors que je suis un membre vivant, le corps mystique vivant de Jésus vivant, ça c'est une expression de Sainte Judith Stein, dès que je suis un membre vivant du corps mystique vivant de Jésus vivant, automatiquement, l'Église, c'est moi. Le membre vivant du corps mystique vivant de Jésus, c'est le tabernacle en son corps spirituel de tout le corps mystique de l'Église. Mais c'est pareil pour le péché, c'est pareil pour le mal. Si je rentre dans un péché mortel, je deviens un membre vivant du corps mystique vivant, de l'Antéchrist vivant. Et c'est tout le monde du mal qui est en moi. Par des connexions, par des canaux, par des fils, par des nœuds. C'est ça qui m'intéresse moi dans cette vision d'un Catherine Hébré. C'est que le mal, c'est pas... Ah, oui, c'est pas grave. La petite réaction, vous savez, des éducateurs pour les enfants. Hein? Oh, c'est normal. C'est pas grave. Le mal, le péché, c'est grave. Ça, c'est la première prise de conscience, c'est que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dès le départ, notre liberté personnelle est engagée. Dès le départ, ça, c'est la grande prise de conscience, elle est là. Quand Dieu me crée, je sors de sa main. Et quand je sors de sa main, parce qu'il me crée, quand je sors de sa main, comme dit le pape, crée mon âme spirituelle 9 mois avant la naissance, 14 heures après la fécondation, parce que la fécondation dure environ 14 heures, à la fin du processus de fécondation, avant la première mitose, Dieu fait sortir cette unité profonde entre le point ontologique de l'unité sponsale qui est sacrée et cette mémoire génétique qui apparaît et unit substantiellement à une participation de son existence qui elle n'est pas dans le temps. Nous avons donc expérimenté, commencé, et notre identité, elle est liée à cet acte créateur de Dieu qui, quand il est notre père, a été en contact physique, temporel, spirituel, et lumineux, et réel, lucidement pour nous, parfaitement lucidement. Notre âme avait les dimensions de ce contact de tous les temps avec l'éternité, de ce contact de l'éternité avec tous les temps créateurs de Dieu, de toute la bonté créatrice. Voilà, notre âme avait cette dimension-là, et en même temps la dimension du génome. Parce que c'est à travers le corps, la mémoire génétique, que notre âme s'est trouvée comme ça, comme étant en contact avec tout ce que Dieu crée, en même temps qu'il me crée, il surgit dans le temps, il me crée, mais en même temps qu'il me crée, il est en train de créer tout ce qui existe. J'ai vraiment commencé ma vie avec cet acte créateur de Dieu. Et à ce moment-là, il était mon père. Il m'a donné la vie spirituelle. Il a créé une âme spirituelle. D'accord ? Et il faut comprendre une chose, c'est que le pape dit que cet instant-là est très important, parce que c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'a commencé la liberté consciente dans l'ordre du don. Vous imaginez un petit embryon ? Liberté. La liberté consciente dans l'ordre, dis donc. La liberté, dis donc. Et dans l'Evangelium Vitae, il dit que ceci, il dit que cette liberté du don, ça c'est par rapport à nous, et par rapport à l'éternité en même temps, il nous inscrit dans le livre de vie qui lui est au ciel. Cette inscription, c'est quelque chose d'incarné. Une divinisation de notre corps spirituel, dans notre conscience originelle, notre oui originel personnel. Et il y a une incarnation de notre prédestination dans l'éternité. Les deux sont en lien. Puis quand Jésus, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, c'est pas Jésus, quand Dieu a réalisé cet acte créateur, commence le fameux fameuse mission, ce oui qui est le nôtre, va devoir traverser tous les obstacles pour rejoindre continuellement cette inscription dans le livre de vie. Et le oui qu'on prononce au départ avec Dieu, on le prononce avec lui dans le Verbe de Dieu. C'est ce que dit Saint Jean. Verbe de Dieu, Fils unique de Dieu. Il illumine tout homme à l'instant même où cet homme est en train d'advenir à l'existence dans le monde. Alors vous avez le Père qui donne la vie, le Verbe éternel de Dieu, qui est là,
qui illumine notre oui, qui dit avec nous, et le oui qui vient du Saint-Esprit et qui produit l'inscription dans le livre. Ça montre bien, on voit bien. Si le pape exprime la chose comme ça, ça veut dire qu'il dit en même temps que nous sommes, que c'est que nous sommes très au-dessus des puissances de ce monde. Notre oui d'éternité, il va falloir qu'il se redise, mais avec la gloire de Jésus crucifié et ressuscité. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas, sauf pour l'Immaculée Conception, dans la première cellule. Mais en tout cas, c'est sûr que, à part elle, non. Oui. Il va falloir le redire avec Jésus crucifié et ressuscité. De toute façon, elle le dit avec la mort et la résurrection du Seigneur dès la première cellule. Elle, son oui. Ce que je trouve très incroyable, très extraordinaire, moi, c'est que la liberté, une liberté dans l'ordre du don, si elle n'est pas consciente, elle n'est pas libre. S'il n'y a pas de consentement, s'il n'y a pas de complaisance, s'il n'y a pas de connivence, c'est qu'elle n'est pas libre. Donc on a commencé avec cette complicité, cette complaisance dans l'amour éternel de Dieu, dans le oui du Seigneur pour nous. Puis amour séparant. Dieu nous laisse, on reste lié à lui. Parce qu'il continue à nous maintenir dans l'existence. Mais cette dépendance vivant d'amour, de lumière, de liberté profonde qu'on a avec lui dans les premiers moments, s'estompe. Et c'est peut-être une des choses les plus extraordinaires du combat de la liberté humaine et du combat spirituel, c'est qu'à ce moment-là, par propagation, nous recevons une participation libre, d'ailleurs, au péché originel. La propagation du péché originel se fait à son bras. L'amour séparant de Dieu, il nous livre à cette responsabilité par laquelle notre amour, notre liberté, avec la présence de Dieu, est victorieuse. Et des opacités. Et quand on a dit oui, dans la liberté du temps, on était parfaitement lucide là-dessus. C'est oui, en sachant, en voyant, sans savoir exactement tout ce qu'on avait traversé, parce que c'était pas une science, mais en disant oui à l'avance, en pleine connaissance. Parce que la vie humaine, c'est une fidélité, c'est un appel à la fidélité substantielle, à la liberté du don. À se donner complètement. Saint Thérèse d'Avila, à un moment donné, son père spirituel lui dit, bon, au nom de la sainte obéissance, je vous demande d'expliquer à tout le monde comment on rentre dans la purification, et puis dans la lumière, et puis enfin dans l'amour, et qu'on a la victoire contre tout ce qui empêche la pureté de notre vie, la ténèbre de notre vie. Et puis, les nœuds, les haines dans notre vie, quoi. Oh, je dis, mais moi, je ne sais pas. Au nom de la sainte obéissance. Ah, bon, la sainte obéissance. Bon. Alors, elle prend son stylo et dit, Seigneur, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas.
Alors, elle fait le jour de la fête de la Sainte Trinité, c'est-à-dire c'est dimanche prochain, la fête de la Trinité, sans faire erreur, c'est plus. Non, c'est après entre le jour de la fête de la Trinité. Elle dit, puis de prier au Seigneur, au Saint-Esprit. Moi, je sais rien, j'ai jamais rien su, j'en sais rien, c'est strictement rien. J'ai pas togé. Voilà, mais là, c'est pendant 30 ans. J'en suis pas sorti, donc j'ai eu des mauvais conseillers, de mauvais théologiens, de mauvais confesseurs, de mauvais pères spirituels. Ils étaient tous très mauvais. Enfin, puisque je suis toujours dans le même bourre-pied, quoi. Je décolle pas. Enfin, bon, j'ai fini par décoller quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle réforme le Carmel, parce que c'est le Seigneur qui l'a décollé. Mais de dire comment on fait, alors. Et c'est là qu'elle a une vision sous ses yeux qui apparaît. Et Dieu lui montre ce qui se passe dans la première cellule à la création de l'homme par Dieu. Ça, faut lire ça, hein, quand vous lisez les œuvres de Saint-Alain-là. Presque, pour le savoir par cœur, ce passage complètement dingue, quoi. Et l'apparition de ce qui se passe quand Dieu crée un être humain. C'est un diamant. Avec, c'est la description qu'elle en fait est complètement extraordinaire. Avec plusieurs facettes, plusieurs couches de splendeur, de beauté, de lumière, de transparence. Tout est image, ressemblance de Dieu, tout est lumière. Si tu rentrais dedans, tu verrais ce oui extraordinaire de Dieu. Et dans quelque chose qui s'est cristallisé, s'est diamantisé, s'est incarné, c'est toi. Et c'est vraiment extraordinaire. Et elle rentre dedans et toutes ces demeures extraordinaires. Et Dieu est assis dedans, au centre, dans la septième demeure. Si elle fait elle regarde ça, elle en fait la description. Et puis voilà, c'est le premier moment, et puis tout de suite dans l'instant d'après, les ténèbres se précipitent sur le diamant tout rempli de lumière, la propagation du péché originaire. Et puis, ça reste un diamant extraordinaire, hein, vraiment, tout lumineux, hein, il ne bouge pas. Et petit à petit, qu'elle voit que ça finit par toucher les parties extérieures du diamant. Puis un petit ver qui rentre dans la première demeure, puis des scorpions, puis comme un buvard qui prend de l'encre. Puis après, au bout d'un certain temps, dans la deuxième demeure de la liberté humaine, puis dans la troisième demeure, et l'enfant ne peut rien faire. Puisqu'il est dans une liberté passive.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'acte de foi, il ne peut pas faire d'acte d'amour, il n'a pas de volonté, il n'a pas d'intelligence contemplative, il n'a pas d'acquis. Il n'a pas de connaissance, il n'est pas la doctrine infaillible de l'Église, il ne la connaît pas.
Il n'a pas les sacrements, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas.
C'est de la vulnérabilité passive alors. En quoi c'est libre?
Et il est libre parce qu'il le subit. Et mais il demeure toujours, en tout cas dans les premières durées de son existence, il demeure concentré sur son oui. C'est ce qu'on appelle l'innocence divine originelle. La liberté du don est toujours là. Toujours. Et Sainte Thérèse d'Avila dit que Dieu est toujours au centre dans la septième demeure. Jusqu'à la mort. La septième demeure est toujours inatteignable. Par la péché. Et le Seigneur lui indique, voilà, la lutte contre toutes. Ce oui qui va s'exprimer pour. Il va s'exprimer donc avec Jésus, avec Joseph, Saint Thérèse d'Avila, c'est très important.
grâce à Saint Joseph, que je vais renaître dans le Verbe de Dieu, à l'incarnation de la victoire de Dieu sur le mal.
Et il va y avoir sept grandes étapes à cette victoire sur le mal. Tout court de vie.
Alors, Sainte Thérèse d'Avila, quand même. Alors là, elle dit. Et c'est là qu'elle a vu donc, que ce diamant avait ces sept grands domaines, ces sept grandes demeures de la victoire.
On comprend en tout cas, et on sait de toute façon quelque part, dans cette connaissance innée qui est en nous, et qui demeure dans la lumière divine de notre innocence originelle, abîmée, on sait que nous sommes responsables de cette victoire sur le mal dans tout le monde minéral, dans tout le monde végétal, dans tout le monde animal, dans tout le monde de l'humain, ainsi dans tout le monde de la création. Et c'est seulement quand on rentrera dans le combat de la septième demeure qu'on verra que Dieu, un peu ce que l'Immaculé a compris, enfin a compris, a pris en main au jour de l'ascension, on va comprendre qu'on va être aussi responsable de ce qui va se passer dans le diaphane éternel de la gloire céleste en dehors de ce monde. Cette descente dans le monde des enfers qui est la nôtre, qui est la condition de l'homme, qui est la condition sine qua non, et cette distance très très grande qui se fait pour qu'on puisse, voyez, par dans la justice, la miséricorde de Dieu, une fois au ciel, creuser dans le fond du ciel des espaces pour la production divine et éternelle d'une gloire pour Dieu. Et la communication de la gloire, ça va dépendre du corps mystique du Christ. Et le corps mystique du Christ, spirituel, nous n'avons pas à lutter contre ceci ou cela, nous devons lutter contre des esprits, contre des puissances, contre des dominations, contre des esprits déchus. Frères, soyez sobres, éveillés, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, va, vient, rôde, tournant autour de sa proie, cherchant comment qui dévorer. Résistez-lui, fort dans la foi. C'est pour ça que j'aime bien ce passage de Catherine. J'aime bien parce qu'il résume bien le mystère du mal. Le mystère du mal est organique. Mal au doigt, c'est tout toi qui as mal. Si on te cloue la main, c'est toi tout entière qui es cloué. Si on te gifle, c'est juste un truc. Même un petit coup d'épingle, mais un coup d'épingle dans l'œil, c'est toi tout entière qui tatat, évidemment. Et c'est pour ça. C'est le sens. Ce qu'on appelle le sens du péché, c'est ça. C'est de comprendre que on ne peut plus, dès qu'on est baptisé, accepter le péché. Ce que dit saint Jean dans l'Épître, c'est vraiment saint Jean dans l'Épître, sur tous les deux premiers chapitres, la première Épître de saint Jean. Il vous secoue bien, hein, c'est cocotier. Attention, il est vieux, miséricordieux, tout rempli de bonté, d'onction. Prend plein la patate, hein, parce que celui qui commet le péché n'est pas né de Dieu. Il n'a jamais connu Dieu. Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché. Exceptionnellement, on obtient normalement la victoire sur le péché, la victoire définitive. Alors, tout problème est bien évident, dans les débutants, les commençants, comme on dit, ça va être de dire, tiens, c'est marrant, c'est bizarre, ma victoire n'est pas absolue, quoi. Donc, ça veut dire, attends, qu'est-ce qui me manque? Des dispositions, c'est-à-dire les vertus.
Les dispositions, c'est pas la préparation au sacrement.
Les dispositions, c'est ce qui permet au sacrement d'être reçu et de communiquer un fruit spirituel à tout l'être humain. C'est les vertus. Si j'ai pas de vertu, c'est-à-dire si j'ai pas de disposition humaine normale, j'aurais beau hurler tous les sacrements, courir après toutes les oraisons, connaître parfaitement toute la doctrine infaillible de l'Église, pénétrer complètement les trésors divins de la connaissance, si j'ai pas les vertus, je recevrai les sacrements. Le Seigneur se lie à moi. Mais moi, je ne peux pas rendre gloire à Dieu. Donc, le sacrement, il faut s'y disposer. Et on s'y dispose par les vertus. Si on n'a pas de vertus, je ne peux pas produire dans ma vie le fruit surnaturel des sacrements.
Si on n'a pas de vertus, c'est le là. Là, tu parles des vertus humaines.
Non, je parle des dispositions. Qu'est-ce que c'est que les vertus? Les vertus, c'est des qualités. Des qualités intérieures aux actes personnels dans lesquels je m'engage, dans les petites choses. Je ne vais pas produire beaucoup de choses. Mais ce que je vais produire, je vais produire un cœur spirituel. Si je vais produire quelque chose
avec mon cœur spirituel. Ça peut être... Par exemple, si je n'ai pas l'humilité, qui est une qualité de l'amour, si mon affectivité n'est pas enracinée dans cette qualité habituelle, presque instinctive, de l'humilité, les actes que je produis ne seront pas humbles. Mais un amour qui n'est pas humble, comme elle vient d'expliquer, sont des actes d'amour apparents. Ce sont des actes de haine. Dans la réalité de leur substance, le fait de ne pas être humble fait que mon amour, mon acte d'amour, ne sera pas un acte d'amour. Parce que si c'est un acte d'amour, d'affectivité, et que j'ai le vice de l'orgueil, le pli de l'orgueil, de la considération de moi-même, alors c'est plus l'amour. Ça n'a des apparences, mais c'est pas l'amour humain. Toutes les dispositions, c'est les dispositions du cœur. Ça, vous savez, c'est pas seulement en 2000 qu'on commence à parler de comment est-ce qu'on mène le combat spirituel. Hein. On n'est pas les premiers, j'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste. Je reconnais. Jamais vraiment penché sur cette question. Mais, par contre, je peux vous dire une chose, tout de même, c'est que pendant 20 siècles, les saints, quand ils disaient voilà comment on rentre dans le combat spirituel, c'est premièrement, avant tout, il faut acquérir les vertus. Parce qu'un homme qui n'est pas vertueux, jusqu'à l'héroïcité, les vertus héroïques, s'il reçoit la grâce, elle ne pénètre pas. C'est un sol pierreux. C'est un sol sec. Donc la part de l'homme, la part de sa liberté, c'est de produire l'humilité. Il ne faut pas qu'il pose beaucoup d'actes, hein, qu'il fasse beaucoup de choses. Mais il va faire une chose. De la manière la plus humble possible. Mais pour ça qu'on dit, par exemple, quand vous voulez, je disais ça l'autre jour. Le matin, quand tu te réveilles, vaut mieux se réveiller avec une vertu que se réveiller avec un vice. Parce que jusque-là, ça te donne le prix de la journée, quoi. C'est le matin. Hein. C'est là que tu prends tu te lèves le matin. Tu te réveilles le matin. Ça, c'est puis ne te lève pas. Hein. Tu dis, d'abord, je vais faire un acte. Je vais me disposer de vertu héroïque. Une minute héroïque. Hein. Ah, une minute héroïque. Ça va être quoi? Alors, tu craques un site, tu commences à travailler. Ça va être quoi ma minute héroïque? Héroïque, hein, il faut que ce soit héroïque. Hein. Ah, il faut que ce soit héroïque. Si tu ne veux pas un acte héroïque, les gens qui ne produisent jamais d'actes héroïques ne peuvent pas avoir les vertus. Alors, des démons leur sont là. Ils ne peuvent pas résister. Impossible. Donc, 30 ans de vie spirituelle n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de vertus. C'est extraordinaire, ça. Tu rentres au noviciat
au monastère. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre à faire pendant 3 ans, 4 ans, avant que tu fasses tes feux perpétuels? On va voir si tu acquiers les vertus. La maîtresse des novices, le maître des novices, il est là pour ça. Allez. Et vérifie tous les jours si tu as fait tes actes de servitude. Tu aperçois que c'est ça la base. D'acquérir les vertus. Avant de te lever, ça va être quoi ma vertu, oui. Au moins une fois par jour, une vertu héroïque. Sinon, c'est la limace jusqu'au soir. Claire. Donc, vous savez, la limace, c'est extraordinaire. C'est le vieux plan. Le vieux père Marido, tu prends une cuillère, hein, tu prends une cuillère, tu mets la limace dedans, et la limace prend la forme de la cuillère. Si t'as pas de vertu, t'as pas de détermination. C'est ce qui va venir, le démon arrive, tu prends la forme du démon. La tentation arrive, tu rentres dans la forme du démon de la tentation. Tandis que si t'as une vertu, sceptre de fer, tu règneras sur les nations avec un sceptre, tu domines de fer. Ça prend pas la forme de la cuillère. La natte héroïque produit la vertu, c'est comme une main. Tu frappes sur la cuillère, la cuillère est aplatie. C'est le contraire. Il ne s'agit pas d'en produire 200 dans la journée.
C'est un acte de foi.
Non.
C'est quoi? Une vertu héroïque.
Bon, on va donner des exemples. On va prendre des exemples. Tu viens de te réveiller. Tu es encore sur ton oreiller, d'accord? Non, je ne pose pas mon pied au sol. J'ai pas encore mon acte héroïque. Il faut que le Seigneur me dise qu'est-ce que je dois faire comme acte héroïque avant. T'inquiète pas, ça vient assez vite. Hein. Il te faudra pas une demi-heure. Hein. Si t'inquiète pas, parce que ta conscience est fraîche. Et il y a une grâce de Dieu qui est donnée à chaque fois qu'un homme se réveille. Que le Christ nous a acquise le jour de la résurrection. C'est ce que disent les saints, et ce que dit le psaume, et la sainte écriture. Tu as une grâce de fraîcheur qui fait que tu peux te lever avec une force qui dépasse tout. Et donc tu demandes au Seigneur, voilà, ça doit être quoi ma minute théorique? Et je t'assure, tu vas tout de suite voir, hein, c'est même pas là. Tu vas tout de suite voir, oui, ma minute héroïque. Bon, ben, voilà. Vous voyez, je vous confesse que ce matin, j'ai pas demandé au Seigneur ma minute héroïque. J'ai pas demandé. Dommage. Mais n'empêche que bon, tu dis bon, voilà, ça va être. Oui, tiens, quand je fais. Ah oui, oui. Quand je vais. Quand je vais rencontrer Iphigénie. Quand je vais rencontrer Iphigénie, je. Je ferai attention à elle. Je m'intéresserai. Ça, je sais pas quoi, ça dépend. Si. Un minute heureux, c'est peut-être. Tiens, oui, je vais téléphoner. Je vais donner un coup de téléphone à ma mère. Vraiment, j'ai pas envie. Hein. Mais je vais donner un coup de
téléphone à ma mère. Je vais. Souvent, le Seigneur demande des choses très, très simples, mais en même temps, faites avec un amour qui dépasse et la terre et le ciel. Par exemple, souvent, il demande, bon. Oui, je vais passer la serpillière dans la cuisine. Souvent, c'est des choses comme ça. Mais alors, des actes héroïques, elle en explique dans sa vie. Les actes héroïques, quand elle se réveille, elle sait qu'elle va faire un acte héroïque. Elle le sait chaque matin qu'un nouvel acte héroïque doit faire, voyez. Et vous le faites. Et bien vous verrez que si vous faites l'acte héroïque, toute la journée est marquée par lui. Il faut acquérir les vertus. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir la vertu de magnanimité? Comment est-ce qu'on fait pour acquérir la vertu, puisqu'on est tout proche de la Pentecôte? C'est 14 vertus là, hein, qui structurent la vertu de force, la vertu cardinale de force. Ces 14 vertus là, dont on a parlé, je vous donnerai le tableau si vous voulez. Les 14 vertus, la vertu des cardinalités spirituelles du cœur, de la vertu de force. Bon, on fait comment? Un acte héroïque de magnanimité. Oh, qu'est-ce que ça doit être magnifique? Un acte héroïque de magnificence. C'est beau ça. Un acte héroïque de. La magnificence, c'est un acte que tu fais où tu es d'accord d'être magnifique. Il y a des gens qui sont mesquins, pénibles et égoïstes, hein. Et ils sont pas magnifiques du tout. Et d'être magnifique dans un acte qu'on fait, de générosité, c'est la magnificence. La vertu de magnificence dérive d'ailleurs de la vertu de magnanimité. De voir, par exemple, ta vie en grand. Non pas une grandeur terrestre, de voir grand. Pas voir petit. Dès que tu vois petit, t'as des sensibilités, t'es inquiète. T'es agité. Vous avez lu, vous, je crois, que comment saint Thomas d'Aquin montre celui qui n'est pas magnanime. Et tous les défauts qui sont là. Celui qui est magnanime, il est marrant. Il a une qualité.
Troisièmement, il parle peu. Le bonhomme n'est pas agité. Il n'est pas dans la précipitation. Il est toujours en avant. D'ailleurs, c'est extraordinaire, quand tu fais quelque chose de grand, t'inquiète pas, il y a toujours le temps. C'est quand tu fais des choses petites à ton niveau, à toi, il n'y a plus de temps. Sont profondément inscrits dans la grandeur de la magnanimité, ton cœur devient un cœur humain. Le magnanime ne se rappelle pas le bien qu'on lui a fait. Hein, c'est curieux ça, c'est vraiment curieux. Si on te fait du bien, voilà mon père, je vous fais un chèque de 5000 euros. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le lendemain, je dis, ah, qu'est-ce que vous avez fait de mon chèque? Je dis, ah, ben, je sais pas. Mais je sais plus comment. Le magnanime ne se rappelle pas le bien qu'on lui fait. Il est trop dans ce qui est grand. Mais, c'est pas qu'il soit ingrat, c'est pas ça. C'est qu'il est ailleurs que dans les choses petites. Il ne se rappelle pas. Magnanime, c'est ces vertus que Saint-Jean de la Croix explique, qu'on développe la magnanimité, essentiellement dont Marie-Eugène aussi, dans les cinquièmes demeures de l'univers. Il faut se disposer à ces vertus de force, vous voyez ça, c'est très important. Hein. D'ailleurs, ça permet du coup la purification, la PPM, la purification passive de la mémoire. Il se rappelle donc pas très bien du bien qu'on lui fait. Il s'en rappelle bien sûr, mais ça ne fait pas présent à l'esprit. Il peut l'oublier. Il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais simplement, par contre, tout le mal qu'on lui fait, il l'oublie complètement. Si on lui fait du mal, il n'a pas la moindre trace dans sa mémoire. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui est humain. C'est la vertu. Si tu n'as pas la magnanimité, je ne sais plus quels sont les autres. Vous vous rappelez d'autres qualités de la description que Saint Thomas fait? Ah, vous n'en avez pas une autre? Il y en a sûrement plein d'autres, non? Bon, vous ne vous rappelez plus. Bon, bon, peu importe. Mais si vous... Si vous ne savez pas comment, comment sont quand même des qualités du cœur, des vertus héroïques, il y en a. Bon, il y a les quatre grandes vertus cardinales. Et chacune de ces quatre, elle est des filles. Et par exemple, la vertu de force, je vous dis, il y en a 14 principales vertus. Je vous les ai dit hier. Si je faisais la liste. Mais si vous voulez creuser un peu, pour voir intérieurement comment on pose un acte de pli, d'amour humain profond et définitif. Allez voir dans Saint Thomas d'Aquin. Comment est-ce qu'on fait pour produire un acte d'humilité? À quoi on reconnaît celui qui n'est pas humble? À quoi je me reconnais? Alors, à force de faire... C'est à ça que ça sert, la vie chrétienne. C'est à être trans,
transformer. Et pour être transformé, il faut bien voir la forme du mal qui est en moi. Faire ce passage, transposition, transformation, dans la forme qui vient d'une image ressemblante de Dieu et qui s'inscrit dans les deux. La vertu de vénération vis-à-vis de ton père il faut que tu aies la vertu de vénération une vénération pour ton père. Nathalie Mbaye. Une vénération. Une vénération pour ton père. Ça s'invente pas, ça. Alors tu vas voir dans Saint-Thomas comment on va chercher au-dedans du cœur spirituel la vertu de vénération. Si t'as pas la vertu de vénération, tu vénères pas ton papa génétique, ton papa adoptif, ton papa spirituel, ton papa... Tous ceux qui ont autorité sur toi. Je ne parle pas de ceux qui estiment avoir une autorité indue sur toi, mais ceux qui ont autorité parce que comme pense Pilate, on voyait hier, hein, parce qu'elle a été reçue d'en haut. Tu dois avoir une vénération. Une vénération. Donc, cette vénération, psychologiquement, hein, on est blessé. Hein, vous connaissez, hein, Freud l'a dit. Hein, donc, si Freud l'a dit, c'est sûr, c'est vrai. On est blessé par le papa. Notre papa nous a blessés. On est blessé, bah oui, psychologiquement. Hein, d'accord. Si tes actes ne sont pas humains, c'est vrai. S'ils sont psy, s'ils sont là. Si tu te laisses aller, si tu ne fais pas des actes héroïques. La vénération pour ton papa, hein? Si c'est ping-pong, ah papa tu m'as fait ça, boum, bah, je te renvoie quoi. Ping-pong, ping-pong, t'en finis jamais. Non, la vénération, c'est beau, hein, les vertus. Hein. Saint Thomas, il en décrit environ 70-80 vertus. Vous avez le choix, hein? Mais il faut avoir ces 80 vertus, il faut les avoir, ils sont vastes communicants les uns avec les autres. Il faut les avoir. Je parle des vertus du cœur, hein, des vertus de la volonté. La paresse, par exemple, c'est un des 7 péchés cardinaux, vous voyez. Bon, faut pas avoir la paresse. Hein. La paresse, c'est quoi? C'est de ne vouloir faire que ce qui m'est plaisant de faire, là où je me sens bien dans ce que je fais. Le travail est une pénitence. Ah, moi, je veux bien faire ce boulot, je veux bien être employé, trouver un boulot à l'impeu, mais ça ne me va pas comme boulot. Attends, tu gagneras ton pain sûr de ton front et tu fais le travail qui ne te plaît pas. Ah non, moi je fais le travail uniquement qui me plaît. C'est l'animal, quoi, hein, ça paraît. C'est extraordinaire, extraordinaire. Non. Le travail, c'est un commandement de Dieu. Et tu ne fais pas selon tes qualités. Tu ne fais pas selon...
Je ne suis pas tellement d'accord.
Je ne parle pas du travail de l'artiste. Je parle du travail, de la paresse. Le travail... consiste à se dépasser pour transformer héroïquement quelque chose. Et ça me fait de la peine, ça m'est pénible. Le travail est par nature, par essence, je parle du travail que l'homme doit faire pour transformer le monde. C'est un travail qui est pénible. Un travail qui n'est pas pénible, c'est pas un travail, c'est du loisir. Ça me plaît. Je m'épanouis dans mon travail. Je m'épanouis dans mon travail, ça, c'est un jeu. Mais je veux être payé parce que je joue. Non. je ne suis pas rétribué dans mon épanouissement. Je veux faire quelque chose qui m'épanouit. Et en plus,
vous ne pouvez pas rechercher la vertu.
Je parle des vertus.
Oui, mais le travail a le droit de le travail.
Non, je parle pas de
a le droit de rentrer dans l'optique d'une.
Non, comprenez. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je
non, sais parce qu'on
si
pas,
je, si je soulève les questions du travail, c'est parce que c'est évidemment. La paresse était évidemment. On arrive à la fin de cette existence. Le septième péché capital, c'est comme à la fin d'une vie. Hein. Le septième péché capital, la paresse, est le péché le plus fort. C'est vrai que Nietzsche est arrivé, et c'est le péché de la fin. Et ce péché fait qu'on accepte le travail, qu'à condition que ce soit un épanouissement. Le travail, c'est implique un effort, une pénitence. C'est une ascèse, c'est pénible.
La pénitence, c'est une fille, en fait. Est-ce que tu peux expliquer cette violence parce que
c'est contre la paresse. Il faudrait faire les sept péchés cardinaux, je veux bien, mais les sept péchés capitaux. Donc la paresse touche ce fait que je ne veux pas m'engager dans quelque chose qui m'est profondément pénible. Et le commandement, justement, qui correspond au travail, est le même commandement que celui qui commande de lutter contre le mal. C'est le même. Et c'est pénible de lutter contre le mal. C'est pénible, c'est dur de lutter contre l'opacité. Et c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai que vous êtes une génération, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Hein. Alors, on voit bien, il y a un problème. Hein. Et ça correspond à une humanité qui se termine, hein, parce que, vous voyez, à la fin d'une vie humaine, quel est le sacrement qu'on donne ? On donne le sacrement des malades. Notre humanité est malade. Il y a certains démons qui ne se chassent que par la prière et par la souffrance de la pénitence. Et le sacrement qu'on donne aux malades à la fin, c'est le sacrement des malades. Comment l'extrême onction. C'est pour donner la force de lutter. Ça vient guérir en fait l'intelligence, l'esprit, la partie spirituelle de notre cœur pour qu'on fasse le travail terminal de la transformation de la mort en amour. Et c'est très pénible hein, ce travail-là. Parce que le travail consiste précisément à transformer, à prendre et à donner une forme nouvelle. Mais quand il s'agit du travail humain, c'est un travail qui est, vous lirez l'Encyclique du Pape, hein, laborem exercens. C'est la partie essentielle de l'œuvre de la liberté dans l'ordre du temps, c'est passer par un travail. Avec générosité, c'est générosité, c'est-à-dire je ne le fais pas pour mon épanouissement. Je ne fais pas un travail pour mon épanouissement, je fais un travail pour transformer le mal, pour transformer la mort, pour transformer la laideur, pour transformer. Et donc c'est forcément pénible parce qu'il faut que je prenne sur moi. Et moi, si je fais un travail en disant je m'épanouis, non, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. À ce moment-là, je transforme. La paresse. Pour éviter d'avoir la paresse, il faut une vertu. Il faut la vertu de justice. Si je ne suis ajusté qu'à moi-même et à mes propres qualités, je n'ai pas la vertu de justice. Je suis ajusté à ce qui me dépasse. Donc, il y a forcément un travail. C'est dur de naître, hein. Il faut vraiment le travail de la femme pour l'enfant. Le bébé, la femme a mal, mais le bébé aussi. Hein. Le bébé, c'est pour ça que c'est terrible. C'est une chose terrible, n'empêche de voir hein, que l'univers, par exemple.
mettre au monde. Je ne veux pas souffrir, donc je vais faire une naissance sans souffrance, comment on appelle ça, péridurale. Alors, péridurale, alors tu vas naître en péridurale. Le pauvre gosse, il commence sa vie, vous voyez la minute héroïque du gosse. Voilà un enfant, parce que la mère n'a pas voulu souffrir, il sera incapable de produire un seul acte de vertu. Oui. Il a une disposition fondamentale qu'il n'a pas. Il ne pourra jamais se dépasser lui-même.
C'est terrible ce que tu disais, mais c'est une condamnation de l'enfant.
C'est-à-dire que tu... Il a des dispositions, en tout cas, qui ne sont pas volontaires de sa part, qui ne viennent pas de son cœur. Et donc il faudra, lui, qu'il acquiert la vertu à laquelle on n'a pas disposé. Il va falloir qu'il réacquiert cette disposition. Mais telle est la liberté de l'homme.
Mais c'est plutôt en fait la femme qui ne souffre pas.
Il souffre quand même, l'enfant souffre.
L'enfant souffre terriblement.
Il souffre quand même, avec
la
péridurale.
Oui, mais il y a la souffrance perçue, surtout celle chez la mère. Non, quand tu fais une péridurale, je ne veux pas rentrer dans les détails, je m'excuse, mais tu anesthésies, c'est une anesthésie. Donc l'enfant, il subit l'anesthésie aussi. Donc c'est complètement incroyable. Empêcher un enfant de vivre sa naissance en anesthésiant, c'est affolant, quoi. Mais ça, il y a un but, vous voyez. C'est les trois hommes sans soi qui sortent de la bouche du possédé. Il y a une organisation, il y a une organisation entre tout ce qui est mal, c'est pour construire une humanité qui ne peut plus avoir de vertu. La première qualité, la première condition du combat spirituel, c'est donc d'acquérir les vertus. Vous allez me dire, bon, si je peux vous donner un conseil, c'est tout ça. Le matin, demandez au Saint-Esprit quelle est votre minute héroïque. Hein. Mais que ne passez jamais une journée sans qu'il y ait cette minute héroïque. Ce serait vraiment lamentable. Là, je vais proposer, je vais dire non, vous verrez. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Regardez le livre de la Genèse. L'homme travaillera à la sueur de son front. Il rentrera dans ce qui est pénible. C'est un ordre. C'est un impératif divin. Et la femme enfantera dans la douleur. Bon. Alors, de rentrer là, c'est beau. C'est beau. Alors, elle a donné naissance à son unique petite fille. Et elle a donné naissance normalement. Et au lieu de le faire à la clinique avec elle l'a fait chez elle-là. À la maison. Et aujourd'hui, elle m'a dit, se mord les doigts jusqu'au sang d'avoir fait une péridurale pour que ça s'éprouve. Et que la petite fille n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça? Bon, mais ça, c'est... Attends, ça, c'est des phénomènes de société. Il faut rentrer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la direction de la vertu de force. Hein, tu vois, il faut se dépasser. Donc, c'est pour ça que c'est juste une naissance sans douleur. Bon, ça n'a rien à voir avec les vertus. Mais n'empêche que ça ne va pas dans cette direction. Nous, simplement, on est appelé à vivre des vertus.
Comme ça n'a rien à voir avec les vertus.
Non, mais c'est un contexte. Hein.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une disposition psychosomatique. Une vertu, elle est interdite. C'est pas... Une vertu, elle est spirituelle.
Mais tout est lié. Le monde minéral, végétal, animal, le monde de la naissance, d'accord. Le monde de la mort, de la vie, le travail.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une disposition.
Tout ça, c'est
physique,
lié par des connexions diverses. Et le fait de se dépasser pour pouvoir arriver à quelque chose de plus grand. À travers la souffrance, ça fait partie de... Il y la nature de la vocation humaine, qui doit toujours se dépasser par quelque chose de plus grand et à travers quelque chose de pénible, tout en continuant à dire oui, et en y trouvant sa complaisance, même si on n'y trouve pas son épanouissement, l'épanouissement de sa volonté propre. Voilà, c'est tout.
On y trouve peut-être un épanouissement supérieur à l'épanouissement qui nous ferait dans une complaisance. Ouais. Donc, par le travail dans une souffrance ou une forme de pénitence, on peut quand même atteindre une forme supérieure de...
Oui, sûrement.
C'est un plus. C'est pour un... On vise un plus. Vous visez un plus en disant ça.
L'acquisition des vertus est gratuite. Elle ne te donne pas d'épanouissement. Elle te donne une disposition nouvelle. Elle ne te donne pas un épanouissement. Elle te fait sortir de toi, du coup tu es peut-être un petit peu moins alourdi par le vice. Parce que les gens qui ne sont pas de vertu, ils sont lourds. Et il faut être léger, quoi. Alors, les vertus nous rendent plus légers, c'est vrai. C'est vrai, mais l'épanouissement, je ne prendrai pas ce mot-là. Je dirais les vertus nous mettent dans un... nous mettre dans une situation devant nous-mêmes, devant le monde, devant Dieu aussi, où notre oui, qui est d'accord de traverser les obstacles, même si c'est pénible, en gardant la même pugnacité, la même ferveur, et en dépassant tout le temps, justement, dans l'acte héroïque, alors à ce moment-là, ça va pouvoir faire apparaître ton cœur spirituel. Bon, donc ça c'est, si on veut savoir, le chapitre premier de la lutte spirituelle, du combat contre le mal, c'est ce chapitre-là, le chapitre de l'acquisition des vertus. Et il faut acquérir les vertus. Et si, et ça, j'allais dire, bien sûr, le Seigneur peut nous aider à acquérir les vertus. Mais n'empêche que c'est notre part à nous. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont magnanimes. C'est évident. Donc, vous voyez, mais la grâce divine, la présence de Jésus, tout ça, vont nous aider à acquérir. Sûrement qu'ils vont ça va nous aider à acquérir les vertus. En tout cas, ils nous le demandent. Il nous pousse à ça. Si on lui laisse un petit peu la liberté de nous le suggérer. Hein. Voilà. Ça, c'est le chapitre 1. Maintenant, conseil. Bah, écoutez, c'est pas très compliqué. C'est que quand vous dites, quand le Saint-Esprit vous y fait penser dans la journée, d'abord, pas de minute avec le matin, premièrement. Deuxièmement, quand le Seigneur vous y fait penser, surtout ne jamais forcer. Hein. Surtout jamais forcer hein, là-dessus. Hein. Mais. Si le Seigneur vous y fait penser dans la journée, tandis que vous êtes en train de nettoyer le gaz, la cuisine, la pierre ponce, si le Seigneur vous y fait penser, là, surtout, il faut que ce soit d'abord le Seigneur qui vous y fasse penser. Alors à ce moment-là, pendant que vous dites vous allez le faire, vous allez le faire en y mettant un amour infini. Mais ça peut être, tiens, il n'y a pas d'eau dans son verre, t'as la table, ou il n'y a pas de vin, tu prends la bouteille et tu vas le servir. Mais attention, le Seigneur t'y fait penser, alors du coup tu vas le faire avec un amour. Infini. Un amour inépuisable. Un amour sans limite. Un amour inattaquable. Un amour héroïque. C'est à cause de la force du dépassement de cet amour que l'acte va devenir héroïque.
Comment est-ce qu'on est sûr que ça vient du Seigneur?
Mais parce que tu y penses, à un moment donné, tu es là, tu dis, tiens, bon, tu donnes spontanément un bout de pain, tiens, t'as pas de pain, je te fais du pain, hein, tiens, je vais faire la vaisselle, tu y penses, mais à ça, tu en fais des centaines de milliers par jour d'actes comme ça, qui sont spontanés, mais c'est seulement une fois de temps en temps que tu dis, tiens, dans ce que je vais faire, ramasser. Même tu peux dire, t'as l'appel alors que tu fais rien de spécial. C'est cet jeune de Belgique qui dit ça à un moment. T'as l'appel sans que tu fasses quelque chose de spécial. Alors tu dis, du coup tu vas inventer, tu dis, ah, il y a un appel à faire un acte d'amour inépuisable, inattaquable. Je dis oui. Alors il dit, ben voilà, alors je me baisse et je ramasse par terre un brin d'herbe. Faire, le faire avec si, le faire avec une sans forcer, c'est ça, hein. Si tu forces, c'est plus un acte qui va produire la vertu, sans forcer tu vas le faire avec tellement d'amour qu'au lieu que ça va être révulsant, tu le feras avec beaucoup d'allégresse, celle-ci. Que si tu n'avais pas fait comme une vertu d'acte héroïque, si tu n'es pas un acte héroïque, il y aura un petit peu de cette répulsion qui va dominer. La répulsion demeure, mais c'est l'allégresse qui va la dépasser. Et cet acte sera un acte d'allégresse. Du coup, ça te donne une humilité joyeuse. C'est comme ça qu'elle dit que je peux vaincre l'orgueil par l'humilité joyeuse, par des actes d'humilité joyeuse. C'est toujours pareil. Donc, les petits conseils, c'est quoi? C'est bien sûr faire ces actes comme ça pour renverser la situation et mettre mon cœur dans un état d'ouverture à une affectivité spirituelle. Si je n'ai pas de vertu, mon affectivité ne sera pas spirituelle. Elle sera psycho-spirituelle. Et si elle est psycho-spirituelle, elle n'est pas tournée vers la grâce. Si elle est purement spirituelle, elle sera tournée vers la grâce. Elle échappe à ce moment-là au point de vue psycho-spirituel. Il n'y a plus d'énéagramme dans un acte d'amour spirituel humain. Il n'y a plus d'énéagramme.
Qu'est-ce que c'est?
Oui, on y viendra. Mais le conseil, moi, que je vous donne aussi, c'est un autre conseil, c'est la plupart du temps, si on n'a pas les vertus, c'est parce qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Et donc il faut connaître les vertus, comment elles fonctionnent, leurs mécanismes, comment on les acquiert, quelles sont leurs fautes et leurs défauts contraires qu'il faut combattre, la mollesse, la pusillanimité, la petitesse, la mesquinerie, la lâcheté, la couardise. C'est tous les défauts de cet homme un bon par rapport à la vertu de force. La vaine gloire. Etc. Alors on regarde les défauts correspondants, on regarde comment ils agissent les uns par rapport aux autres, et du coup, voyons cette doctrine toute simple, qui est une doctrine, l'Église est infaillible dans la doctrine morale, c'est la doctrine qui explique comment fonctionne le cœur humain s'il veut devenir humain. Si ton cœur n'a pas pris un pli comme celui du torrent, ce pli, c'est les vertus qu'il donne. Alors le Seigneur aura beau donner les torrents de la grâce, étant donné que tu as un mauvais pli, ça va aller de côté. Parce que tu n'as pas les vertus. Et donc, le conseil, c'est le conseil de siècles et de siècles d'église apostolique, c'est qu'il faut faire l'examen de conscience. Et l'examen de conscience, c'est de regarder en face, non pas mes blessures, mais mes péchés. Non pas mes atavismes, si vous voulez, mais mes vices. Et regardez, non pas la guérison. Vous voyez, ils sont tous tournés vers la guérison. Dans la première sphère, tout tourné vers la... Non pas la guérison, mais la libération. La vie spirituelle, les vertus, les qualités du cœur que j'ai pas. Alors évidemment, je peux toujours dire, moi, ah, oh, moi je suis vertueux. Ah oui, tu es vertueux, bon. Alors, on va faire un examen. Ça, c'est la thérapie chrétienne, ça. On va faire un examen pour voir toutes les 80 vertus. Et après, on voit si tu as la moyenne. Hein. 80 vertus. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, hein, les 80 vertus. C'est complètement génial, hein.